RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le maître Yodu, Johan Durand avec moi comme toutes les semaines. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, salut.
Ça va? T'es en forme?
Ouais, impeccable, écoute, tranquillement.
Bon, tout va bien?
Ouais, tout va bien. L'été arrive tranquillement, la saison est belle, donc franchement, ouais.
Tu cours torse nu?
Bah là j'ai dû remettre le t-shirt, tu vois, effectivement le bronzage que j'avais voulu peaufiner est en train de s'estomper un peu, mais je compte sur juillet-août, tu vois.
Le bronzage marocain s'estompe.
Ouais, s'estompe, mais le body summer, il va falloir que je commence à m'affoler.
Ok, d'accord, ouais, ça y est, la balance affiche 65 kilos quoi, c'est
la balance est un peu lourde, je crois.
Ouais. Bon, vous nous suivez toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava, le club RMC Running. Allez vous abonner aussi sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer, sur YouTube, et laissez-nous des notes et des commentaires, ça nous aide à grandir. On va vous raconter un défi fou aujourd'hui, Paris-Milan en courant, rien à voir avec la finale de la Ligue des Champions.
C'est ça.
Mais c'est le défi que s'est lancé Joséphine, elle est avec nous, elle est passionnée de sport et de course à pied en particulier. Comment est né ce défi, la réalisation, les galères, les émotions? Elle va tout nous raconter, alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va retraverser les Alpes avec elle aujourd'hui.
RMC Running.
Et elle est en studio avec moi, salut Joséphine.
Salut, salut.
Sois la bienvenue dans RMC Running, t'as le sourire et pas trop de fatigue a priori, donc ça va, le défi est digéré quoi, j'ai l'impression.
Le défi est digéré, j'ai même envie de dire j'ai hâte de rechausser les baskets.
Ah t'as déjà des défis en tête pour te projeter sur autre chose quoi.
Bah Milan LA, comment tu veux que je relie les deux
villes?
Ah
bah
c'est plus dur. Ah là, ça se fait, ça se fait.
À la pagaie alors, sinon, ou un truc comme ça quoi. Ce défi fou qu'on va vous raconter, parle-nous de ton histoire personnelle déjà, comment c'est né, comment le défi est venu dans ta tête alors?
J'ai toujours un peu couru, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais petite, il y a 3 ans, j'ai couru mon premier marathon, après j'ai commencé à faire les semis, les marathons, des séances spécifiques, et en fait ça m'ennuyait un peu.
Okay.
Parce que j'ai commencé à faire du trail et à me dire, à me détacher du chrono, me détacher de la montre et commencer à courir des plus longues distances et à adorer ça.
D'accord.
Et donc, quand je m'entraînais, là, je me suis entraînée pour le marathon de Paris cette année, le marathon de Londres. Mais en fait, je me suis dit, et le semi-marathon de Paris, je me suis dit, j'ai un peu envie de changer ma méthode d'entraînement.
Ouais.
J'ai envie de courir pour moi, surtout que j'avais commencé les réseaux sociaux, donc je ne voulais pas du tout commencer à me comparer par rapport aux autres et vraiment trouver mon running et courir pour moi. Et donc, en fait, j'ai commencé à borner énormément la semaine et à pas du tout suivre de programme, ce que je ne recommande pas du tout, mais à courir tout doucement, courir avec les gens. Donc, au lieu d'aller boire un verre avec mes copains, j'allais courir, donc j'allais catch-up comme ça. J'allais faire... Donc, j'étais créatrice de contenu et j'allais faire tous mes rendez-vous avec les marques en courant. Donc, je partais le matin à 8h30 du matin. Je rentrais le soir à 21h, 22h. J'avais couru toute la journée en faisant des pauses. Et en fait, j'avais borné 25 km la journée.
Ton moyen de transport, c'était basket?
Exactement.
Okay.
Et j'ai adoré.
Et t'as quel âge sans...
J'ai 26 ans.
26 ans, donc t'es jeune, t'es une passionnée d'athlète, tu t'es mis à la course à pied comme ça. C'est bien, Johan, de se révéler et de sentir ce qui nous plaît finalement, parce qu'on a tous des profils différents. On est parfois obsédé par le chrono, parfois on préfère les distances courtes ou un peu plus longues. C'est bien aussi qu'elle se rende compte aussi jeune de ce qui lui plaît en fait.
Ouais, bah c'est ton rapport à la course à pied, c'est ça. Il y en a qui veulent faire de la performance, du chrono, qui veulent battre leur RP. C'est uniquement ça qui les fait avancer. Donc eux, ils vont te suivre un plan d'entraînement hyper carré et hyper sérieux. Et puis après, bah il y en a d'autres à l'inverse qui sont plus par rapport à leur ressenti, leur feeling. Ils courent aux sensations. Ils aiment ce sentiment de liberté où ils sont seuls avec eux-mêmes ou en groupe après. Mais c'est vrai que ça, c'est propre à chacun. Et le pourquoi tu cours, c'est pour ça que la question, elle est super intéressante. C'est vraiment chacun a démarré la course à pied ou aime courir pour une façon différente d'un autre, tu vois.
T'as raison, Yodu, on oublie les bonnes habitudes parce que toujours la première question dans RMC Running, c'est pourquoi tu cours? Elle est très simple, cette question. Comment tu y répondrais, toi, Joséphine?
Je cours pour être libre. Je cours pour avoir confiance en moi et mon corps. Et je me suis vachement trouvée. En fait, courir, c'est ma façon de marcher.
Ouais.
Je cours tout le temps. J'aime un peu aller... J'aime aller vite, j'aime voir beaucoup de choses, j'aime faire plein de choses. Et en courant, on fait plus de choses qu'en marchant.
Mmh.
Et on voit la vie un peu différemment. Et j'adore. Et je me suis retrouvée à courir 130 km par semaine et à faire mon semi-marathon de Paris en 1h21. Donc en fait,
Oui, des vrais chronos fort, solides. D'accord.
Ouais, j'étais 36e femme du marathon de Paris.
Ok.
Donc en fait, je pense que... oui, il faut suivre des programmes d'entraînement et c'est ce que je recommande. Mais quand on trouve un peu ça... Pourquoi on court et ce qu'on fait, ce qu'on aime, en fait, ça finit par fonctionner. Donc, en fait, j'ai vraiment trouvé ma recette. Et franchement, j'adore. Vraiment, j'adore et j'ai envie de continuer.
Parce que sur un profil comme le tien, donc assez performante, des chronos en 1h21, donc ça fait quasiment 4 minutes au kilomètre sur le semi-marathon, donc c'est très solide. Et le volume qui augmente, t'as pas été perturbé par des blessures pour l'instant, non?
Non, parce que j'ai fait que de l'EF. J'ai vraiment fait très peu.
Ah, même
la
prépa semi, t'as fait qu'en endurance fondamentale?
Pratiquement. Genre, j'ai fait vraiment 2 ou 3 séances sur les quais où je me suis fait 3 fois 3000, 1 ou 2 fois. Mais sinon, bah, en bornant 130 km, tout doucement, tu te blesses pas et ton corps, il se muscle.
Ouais.
Et attention, je dis pas que c'est le schéma à suivre pour tout le monde, mais moi, ça a fonctionné. Et mon programme, on peut aller voir sur mon Strava, j'ai vraiment fait que de l'EF.
Et t'as une progression importante ou t'avais déjà fait des semis? T'avais déjà des
chronos de référence? J'avais fait mon premier semi en 1h29 l'année dernière.
Okay.
Et je l'avais fait en souffrant. J'avais détesté mon semi de l'année dernière.
Okay.
Et j'avais suivi un programme et c'était terrible. Et en fait, cette année, j'y allais pas du tout pour faire un chrono. J'étais trop bien dans ma tête, trop bien dans mon corps. J'y suis allée pour donner le meilleur de moi-même.
D'accord.
Et ça a trop fonctionné.
Comment tu l'expliques, toi, coach, alors, Yodu?
Bah, parce qu'elle l'a dit, elle a dit qu'elle était trop bien dans sa tête et ça joue énormément. Le fait d'aimer ce que tu fais va faire que tu n'as pas l'impression que c'est une charge de travail. Et après, l'endurance fondamentale, on sait que... Alors après, il y a différentes endurances. Il y avait peut-être un peu de tempo, un peu d'allure dans ce qu'elle a fait. Mais effectivement, le volume aide énormément. La répétition des chocs, musculairement, tu deviens beaucoup plus solide. Et effectivement, le cardio travaille un petit peu, la pompe fonctionne. Et après, je pense que le côté mental, alors voilà, là ça marche, mais c'est pas quelque chose qui peut marcher pour tout le monde. Si t'aimes le fractionner, si t'aimes te rentrer dedans, et si on te fait faire que de l'EF, bah la personne elle va être frustrée et elle va arriver sur la ligne de départ pas du tout en confiance et ça va être un petit peu plus compliqué. Donc effectivement ça peut fonctionner sur certains profils, ouais, ça c'est sûr.
Et puis t'as aussi ce passé d'athlète, enfin d'athlète.
Exactement. Tu l'as
fait dans ta jeunesse, dans ta vitesse, tu savais te rentrer dedans et tu sais que ton cœur et ton corps est habitué à comme ça aller chercher de l'intensité et de la vitesse, quoi.
Donc, de la mémoire musculaire. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, j'ai fait de l'athlétisme et ça m'a vraiment donné des bases solides.
Ouais.
Donc, j'en ai mangé du fractionné.
Voilà, donc,
j'en ai mangé.
Voilà, c'est ça. Tu ne sors pas de nulle part comme ça avec seulement du volume de 130 km, hein, ce qui
c'est
est très solide pour une semaine d'entraînement. L'histoire du défi. Tu as bossé sur Paris 2024, t'as adoré, t'as passé cette parenthèse enchantée et tu l'as très bien vécu. Et tu t'es dit, il faut que ça continue, quoi. C'est un peu ça le début du défi.
Ouais, il faut que ça continue. Et surtout, bah, quand mon manager il m'a appelé en mi-mars pour me demander si je voulais rejoindre les JO d'hiver de Milano-Cortina en 2026, j'ai bien sûr accepté parce que j'ai vécu un rêve l'année dernière, comme tu l'as dit. Mais j'avais ce job de créatrice de contenu running où je travaille avec plein de marques et c'est vrai que j'ai...
Ça, c'était déjà enclenché.
Ouais,
déjà
ça, j'ai lancé mon compte en février dernier, février 2024.
Okay.
Et donc, en fait, j'avais quand même un quotidien qui me plaisait énormément, même si je travaillais beaucoup. Et je ne voulais pas abandonner la course du jour au lendemain comme
d'accord.
ça, abandonner mon compte. En fait, je me suis dit, comment amener ma communauté à Milan? Comment faire un défi? Comment faire quelque chose avant de commencer à travailler pendant 6 mois et de beaucoup travailler, parce que pendant les Jeux Olympiques de Paris, on a quand même beaucoup travaillé. Mmh. C'est un travail intense. Et je me suis dit que j'avais envie d'être ma propre flamme olympique. Et je me suis dit...
Bah, tu t'es dit, je vais être la flamme.
Ouais, je vais être la
flamme entre Paris et Milan, c'est moi.
Je ne savais pas si ça allait être la flamme ou la flemme.
Ouais,
mais je me suis dit, je veux être ma propre flamme olympique. J'ai envie de porter un message. On va y arriver au message. Mais moi, je ne demande pas de faire des Paris-Milan, mais juste de faire attention à son corps et de prendre soin de son corps et de se bouger. D'être bien dans son corps, d'être tonique. Et je voulais vraiment que les gens se lèvent de leur canapé. C'est un peu contradictoire d'être sur les réseaux sociaux et de demander aux gens de sortir de leur canapé et de poser leur téléphone.
Ah, si, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Et c'est ce que tu dis, c'est créer du contenu. C'est pas de l'influence.
Non, bien sûr.
Inspirer les gens qui te regardent.
Ouais. C'était exactement ça. Et je me suis dit, mais vraiment, je vous jure, l'idée, elle a pop-up dans ma tête début avril, mais comme ça un soir. Et je ne sais pas comment vous dire, quand vous savez qu'une idée, c'est la bonne, elle a été là, elle est arrivée dans ma tête, j'en ai parlé à 2 copains, j'ai dit je vais le faire avec ou sans sponsor, s'il faut que je vende 3 reins et je le ferai. En fait, j'allais le faire dans tous les cas, je savais que l'idée était bonne, je trouvais que le storytelling était beau, il y avait du sens et je trouvais le défi, en fait, ça correspondait à ma manière de voir le running, pas courir vite, j'ai jamais couru vite, toutes mes traces, elles sont disponibles sur Strava, une communauté Paris-Milan courant. J'ai jamais fait de la vitesse, mais j'ai fait de l'endurance fondamentale et je me suis absolument jamais blessée. Donc l'idée, elle a pop-up le 1er avril. J'ai fait une vidéo pour annoncer sur les réseaux, sinon je me suis dit je vais jamais le faire. Donc la vidéo elle
donc
est sortie.
Tu t'es engagée comme ça.
Ah, je me suis engagée comme ça.
Ouais,
ah,
une fois que c'est annoncé.
Ouais. Elle a fait 20 000 j'aime. Je me suis dit c'est sûr comme ça.
Ça y est, j'y vais quoi.
Ouais, j'ai une crédibilité, il faut la garder cette crédibilité. Ouais. Et donc j'ai commencé à aller voir les. Parce que j'avais la chance d'avoir déjà travaillé avec plusieurs marques. Et donc je suis allée voir les marques en lesquelles je croyais le plus et avec qui j'avais un lien. Parce qu'avant tout, c'est des liens avec les marques. Il n'y a pas que de la rémunération, que du business. Mmh. C'est aussi des liens. Donc, j'ai beaucoup de liens avec plusieurs marques. Et donc, je suis allée voir New Balance et Garmin, notamment, et qui ont complètement cru au projet. Et en 2 semaines, ils m'ont débloqué du budget. Donc, d'accord, très, très rapidement. Alors que moi, je leur ai dit, j'ai le marathon de Londres le 27 avril. Je pars le 2 mai. Donc, il fallait que je me laisse 5
sans
jours.
Sans digérer le marathon, quoi.
Ouais, j'ai 5 jours. Bon, j'ai fait le marathon en 3h20. Donc, pour ça va.
Ouais, c'était...
Ça allait par rapport au semi que j'ai fait. Mais c'était quand même... il fallait quand même que j'ai 5 jours.
Il fallait courir un peu, ouais.
Il fallait quand même 5 jours de répit. Et je suis partie le 2 mai. Je suis partie le 2 mai. Entre-temps, donc, dans ces 2 semaines, j'ai trouvé des sponsors. Il y a aussi Global, une autre marque qui m'a donné un peu d'argent, mais ils n'ont pas de compte... Et de sites, mais il fallait que je trouve des accompagnateurs. Et ça a été un peu la question. Et là, j'avais...
Oui, parce que tu te lances pas toute seule dans un petit pareil. Ouais,
en fait, je voulais camper de base, je voulais compter sur personne pour embêter personne. Et en fait, je me suis dit, mais mes chaussures de trail, mes bâtons. Je voulais que les marques, elles m'envoient des petits paquets dans chaque hôtel ou chaque Airbnb, mais en fait, c'était pas du tout possible.
Ah, imagine.
Ouais, mais au début, quand je me suis dit, je vais le faire, j'avais peur de me reposer sur des gens et qu'au final, on me plante à la dernière minute. Mmh. Et en fait, mes 2 meilleures copines étaient disponibles. Il y en a une qui a monté sa marque et l'autre qui recherche du travail. Donc, elles étaient disponibles. Elles m'ont dit, on arrive. Il y en a une qui m'a dit, je suis là du premier jour au dernier jour. Il y en a une qui nous a rejoint pendant le trip. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu cette copine qui m'a dit, je suis là, j'ai eu un poids qui s'est enlevé. Je me suis dit, marque ou pas marque, j'ai la voiture de mon père, cette copine, j'ai qu'à courir, je suis libre. On se débrouillera... Allons-y. Et grâce au sponsor, du coup, j'ai pu payer toute la logistique parce que j'ai pas dormi en tente. Et je suis contente parce que ça m'a permis quand même de me reposer.
C'est quoi, un hôtel à chaque fois?
Un Airbnb hôtel, on regardait les moins chers. Et en fait, pour faire ma trace, il y a ce travail qui m'a contacté, qui m'a dit tu peux faire ta trace sur notre site. Mmh. Et donc, j'ai fait Paris-Milan. Et là, ils m'ont donné un tracé. Au début, j'ai fait les chemins les plus courts. Donc, je savais pas trop la différence. J'ai fait chemins les plus courts. Donc, j'avais 850 km.
Ouais.
Et entre-temps, désolée d'être longue, mais entre-temps, j'ai été invitée au marathon de Genève, qui était une semaine après le début, donc ce qui était le 12, je crois, mai.
Ouais.
Donc je me suis dit, je pars le 2, 10 jours après, il y a Genève, trop bien, je fais ça. Faut passer par là. Mais en fait, il s'avérait qu'en une semaine, j'allais faire la moitié du Paris-Milan, donc c'était 450 km en une semaine.
Ouais.
Donc les 2 premiers jours, j'ai suivi ça, j'ai fait 60 km. Les 2 premiers jours, donc ça a fait 120 kilomètres.
Ouais.
Je suis arrivée le soir quasiment en pleurant. Pas en pleurant, mais épuisée.
Trop dur.
Je me suis dit, mais pourquoi je fais ce projet-là? Je fais ce projet-là pour me prouver quelque chose, pour aller vite, pour faire tout. Je me suis dit, en fait, je fais ce projet-là pour kiffer. C'est le plus important.
Ouais, bien sûr.
Et pour voyager, visiter et pour raconter une histoire. Mais pas obligée de le faire en souffrant parce que je savais que j'allais pouvoir faire 450 mètres en une semaine. Mais j'étais sûre que j'allais me blesser. Et Milan, ça n'allait pas être possible.
Bien sûr.
Et donc, du coup, j'ai priorisé mes objectifs et je me suis dit, c'est quoi la chose la plus importante? C'est d'arriver à Milan.
Mmh.
Et donc,
parce que le but, c'est d'aller au bout.
Voilà, exactement. Donc, et dans un projet, il faut toujours revoir ses priorités, faire des concessions. J'ai appelé le marathon de Genève, j'ai dit merci beaucoup, mais à l'année prochaine. Et donc, du coup, on a ralenti. Au lieu de faire du 60-50 km par jour, j'ai fait du coup du 40 km par jour.
Ça fait un marathon par jour.
Un marathon par jour.
Ouais.
Et là, du coup, en fait, vu que j'avais fait le plus dur dans les 2 premiers jours, mais le reste, ça a été du gâteau. En fait, je me suis dit, mais ça peut pas être pire que 60 km sous 60 degrés. Il faisait hyper chaud en quittant Paris. Et donc après, le 40, pour moi, c'était un day-off du 40 km.
Qu'est-ce que tu penses de ce défi, Johan? C'est complètement fou. Quand tu es persuadé d'une idée, et on le redit d'ailleurs, c'est la force du mental. Alors, il y a aussi l'accompagnement des proches. Là, ça te rassure parce que c'est tout un défi logistique et aussi des peurs que tu peux rencontrer à certains moments parce que tu te retrouves dans des lieux que tu connais pas du tout, etc. Le fait d'être accompagné aussi, Johan, ça simplifie les choses forcément.
Ah non, le soutien extérieur dans ces moments-là, il est hyper important parce que toi, tu es quand même... Les premiers jours, ça va, tu es un peu lucide, mais au bout d'un certain moment, quand tu cours, tu commences à être un petit peu... L'aide extérieure à ce moment-là, avec la fatigue accumulée, elle est super importante, que ce soit un suiveur en vélo ou des gens qui viennent courir avec toi. On en a parlé dans le défi qui est en train de faire d'un Caperia. C'est vrai que les gens qui peuvent venir t'accompagner, même si c'est que sur 10 km, bah, c'est déjà 10 km avec quelqu'un. Tu partages un petit peu, tu discutes, t'échanges, et puis la personne, elle est là pour te rassurer. Dès que t'as un petit coup de mou, elle te dit allez, lâche pas, tout le monde compte sur toi, machin. C'est vraiment une aide mentale très importante. Et c'est vrai que ce soutien, il est dans ces genres de défis, il est quand même ultra important parce que solo, c'est compliqué.
Ouais. Ouais. La force des réseaux, ça donne de la motivation, du mental, etc. Mais est-ce qu'il y a un mauvais côté aussi ? Non,
pas du tout. Ça donne de la dopamine, ça donne du mental. Et comme vous le dites très bien, je savais qu'en courant le soir, j'allais rigoler, j'allais retrouver des copines. Si le soir, je m'étais retrouvée seule, ça aurait été bien plus compliqué.
Bien sûr,
là, elles sont occupées de la nourriture, de tout. Tout était prêt, tout était... mes jambes, j'avais des jambes de compression, la machine était branchée, enfin... Tout était un rêve.
T'es arrivé, t'étais dans des
voilà.
C'était athlète de haut niveau.
Voilà, mais les réseaux, donc ça apporte un boost. Quand j'allais pas bien, parfois sur le chemin, je regardais les messages. C'est peut-être un peu narcissique, je sais pas, mais de voir des messages, j'étais inspirante. Merci, je voulais pas aller courir, mais aujourd'hui j'y vais parce que mes 5 km par rapport à tes 60 km, c'est rien, donc j'y vais. Ouais. Ça donne forcément un boost. Et le seul côté négatif, bah, c'est de faire la vidéo. Et moi, vraiment, je me filmais toute la journée, je filmais mes copines, je mangeais. Je retardais au plus tard, donc je commençais mon réel à 21h. Mmh. Et là, j'avais une heure de rush à faire. Il fallait que mes vidéos soient... J'aime bien quand elles sont dynamiques, donc je les ai beaucoup travaillées. Et je m'endormais plus tard que mes copines et je me réveillais plus tôt que mes copines. Donc j'ai dormi 6-7 heures par nuit. Et vraiment, c'est ça le côté négatif, c'est de faire les vidéos. Mais en attendant, je suis créatrice de contenu, donc c'est ce que j'aime.
T'es obligée. Et puis toi, tu veux que ce soit de la qualité.
C'est de la qualité, exactement. Ouais. Mais de repasser la journée que tu viens de passer, ça a été vraiment, vraiment dur. Et en fait, ça m'a vraiment étonnée parce que je pensais pas que ça allait être ça le plus dur. Et ça a vraiment été de faire cette vidéo daily.
T'as jamais eu de flemme de faire des vidéos, de les monter, de tout ça? Il y a pas des moments où tu te dis.
Ah si, mais encore une fois, la crédibilité, j'aime bien quand je dis quelque chose, le faire.
Bien sûr.
À part le marathon de Genève, il faut parfois prendre de la hauteur. Mais en fait, ça a fonctionné tellement. Mmh. Et en fait, le simple commentaire de dire « t'es devenue ma série quotidienne » et je recevais des messages, parfois des vidéos de gens dans le métro qui regardaient, enfin, des copains à moi qui montraient des vidéos dans le métro de gens inconnus qui regardaient ma vidéo. Rien que pour ça, ça me donnait la force. Mais on ne va pas se mentir, ça a été très compliqué.
Ouais. Donc cette partie-là, forcément délicate. Quand tu m'as dit « j'ai fait mon itinéraire », tu m'as parlé de chemin le plus court. Oui. Tu n'as pas parlé de dénivelé, parce que ça, c'est un enjeu majeur. La difficulté est là, c'est quand ça monte, quand ça descend, musculairement, c'est beaucoup plus dur. Tu n'as pas pris cette donnée en considération ? Strava t'a aidé là-dessus ? Comment
ouais, ça ? Déjà, j'ai vu le plus court et je me suis vite rendu compte qu'il ne fallait pas faire ça parce que je me retrouvais sur des nationales avec des camions.
Eh oui, bien
et
sûr.
Ça, c'est une fatigue.
Sur l'autoroute.
Ouais. Alors, ça, c'est une fatigue supplémentaire parce qu'il faut faire attention à ta vie. Donc, ça te prend de l'énergie.
Ouais.
Donc, en fait, j'ai refait tous mes itinéraires après qu'on ait décidé de ne pas faire le marathon de Genève au chemin les plus utilisés. Donc, ça m'a rajouté énormément de kilomètres.
Bien sûr.
Donc, ça, c'est un point.
Quasiment 100 kilomètres.
Ouais, exactement 100 kilomètres. Mais je les referais 100 fois. C'était trop bien. Les routes, c'était beaucoup plus reposant et beaucoup plus sympa. Et le dénivelé, j'ai un peu fait l'autruche. Je me suis dit, ça sera quelque chose pour plus tard. Et j'ai retardé jusqu'au dernier moment, donc jusqu'en Suisse. Donc le seul dénivelé qu'il y avait, en vrai, il y en a eu un peu dans le Jura. Donc j'ai fait Paris-Dijon en une semaine, Dijon-Lausanne en une semaine. Et là, j'ai traversé le Jura, mais c'était pas très haut. Et après, j'ai fait Lausanne-Milan en 10 jours. Et là, j'ai traversé les Alpes. Et là, il y a eu un petit problème. Je regardais toujours la veille le parcours pour le lendemain. Enfin, vraiment, c'était un peu... Tout a été fait à l'arrache, on va pas se mentir.
Okay.
Et j'ai eu... Je veux parler de plein de choses, désolé, mais il ne faut pas se mentir, j'ai eu une chance incroyable avec le temps. Le soleil m'a accompagnée. Parce que sous la pluie, on parle du mental.
Pas eu de pluie pendant 26 jours.
J'ai eu zéro pluie, à part dans les Alpes, où là on va en parler, mais j'ai eu que du beau temps. Et ça, pour le mental, de voir la Bourgogne, de voir Lausanne, le lac Léman, et de voir l'Italie sous le soleil, c'est pas la même chose que sous la pluie.
Ah, mais c'est sûr.
Ah, donc vraiment,
pour le moral, t'as raison.
Non, mais il pleuvait dans toute la France, tout le monde me dit, mais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes tes vidéos, il y a du soleil? Il pleuvait partout en mai, mi-mai, début mai. Enfin, je recevais que ça.
Ouais.
Et donc, le mauvais temps est arrivé au moment le plus important, dans les Alpes. Je regarde ma trace du lendemain et je vois que les deux prochains jours, je vais devoir monter 3-4 000 mètres de dénivelé. Et là, je regarde un peu sur ce travail. Je vois que je passe une crête. Enfin, en 3D, je me dis...
T'as pas fait que de la route? T'as fait du chemin aussi?
Ouais, j'ai fait du trail.
Okay.
Et là, je me dis, mais... j'ai vu des messages, malheureusement, il y a eu une fille que je suis parisienne qui a eu un accident vers Saint-Plon. Enfin, je vois qu'il y a eu beaucoup d'accidents, qu'il y a eu des morts.
Ouais.
Et là, on appelle tous les guides. Je commence à avoir un petit coup de panique alors que je ne suis pas quelqu'un qui panique beaucoup. Là, je me dis quand même, la montagne, c'est comme la mer. On m'a toujours dit, c'est dangereux. Et surtout que je fais des vidéos sur les réseaux, donc je ne peux pas faire n'importe quoi et je ne peux pas... dire un message de sécurité, oui, de liberté et de faire des choses.
Tu peux pas prôner des risques, voilà, sur les réseaux. Quoi.
Voilà, j'avais pas du tout. Donc on a appelé tous les guides. On a eu des Italiens, des Suisses, des Dutch. On a tout eu au téléphone. Il y en a qui nous ont dit il va neiger entre 25 et 30 cm. Donc attendez le week-end. On était jeudi, on était mercredi soir, je crois. Il y en a d'autres qui nous disent il va pleuvoir, je peux pas. Il y en a d'autres qui disent je peux, mais en ski alpin. Moi, mon rêve de le faire en ski alpin, j'aurais adoré, ça aurait été trop beau.
Ouais, ça, ouais.
Ça aurait été trop beau. Et au final, j'ai bien fité avec quelqu'un qui m'a dit, écoute, on va passer, ça va être moins beau, mais on va passer par le col de Saint-Plon, je peux t'emmener et donc faire l'étape avec toi. Et mais ça ne sera pas sur la route, ça sera sur du chemin. La route, elle est fermée, parce qu'il y a, enfin, le chemin est fermé parce qu'il y a plein d'arbres qui sont tombés, parce qu'en fait, il a fait très chaud, les feuilles sont tombées et après, il a neigé. Donc les arbres n'étaient pas assez solides et donc sont tombés sur tous les chemins dans toute la montagne. Donc là, ils étaient en train de nettoyer la montagne.
D'accord.
Ils ne pouvaient pas ouvrir les chemins parce que s'il y avait un accident, la municipalité était mobilisée et ça allait être de leur faute.
Ouais.
Donc ils fermaient tout par mesure de sécurité. Il m'a dit, t'inquiète, moi je connais très bien la montagne, c'est fermé, les chemins vont être cata, okay, mais je vais t'amener en sécurité.
Okay.
Et donc du coup, j'ai eu un guide qui est devenu un très bon copain. Enfin, c'est comme ça qu'on voit la beauté des réseaux, du sport.
C'est ce que j'allais te dire, c'est le sel de ces aventures, c'est à la fois la découverte de ton pays, de l'Italie et de la Suisse aussi, parce que tu as traversé trois pays, et les rencontres que tu fais sur le chemin, parce que c'est ça, le côté humain, c'est ça qui nous plaît forcément, et c'est peut-être les souvenirs que tu garderas en tête plus que des douleurs ou des moments ou des... Qu'est-ce que tu gardes avant tout? C'est les paysages, c'est redécouvrir ou plutôt découvrir la France comme ça, comme tu l'avais jamais vue, ou les rencontres? Un peu les deux, en fait.
Un peu les deux, un peu tous les rencontres... Déjà, dans chaque ville où on s'arrêtait, on rencontrait des personnages atypiques. Mais c'est vrai, là, honnêtement, sur les réseaux, on voit beaucoup de commentaires négatifs. On se dit c'est dangereux les réseaux et ça l'est. Et là, en fait, ce projet, moi, ça m'a montré la bonté des gens.
Ouais,
et sur mes réseaux, il n'y a jamais eu de commentaires négatifs parce que le sport, je trouve que c'est un milieu assez sain, en tout cas, de mon expérience depuis un an et demi. Et là, ça m'a montré à quel point les gens, ils s'inquiétaient. Ils m'envoyaient des messages, ils m'envoyaient des podcasts. Ils me disaient attention, là, c'est peut-être ouvert. En fait, quand ils ont vu que j'étais en difficulté, bah, sans eux, j'aurais jamais eu accès à Lucas, mon guide qui m'a aidé. Donc en fait, la bonté des gens, j'ai tendance à avoir un peu le mal. Et là, bah, les gens, ils ont été trop gentils, m'ont aidé. Et sans cette communauté que j'ai de malades, que je remercie, j'aurais pas pu traverser les Alpes. En tout cas, j'aurais pris du retard. Et là, en fait, tout a roulé.
Les paysages aussi.
Les paysages sublimes.
Incroyable.
Les paysages sublimes. Bon, après, Paris-Milan, je pense qu'on peut aussi le faire en vélo. J'ai franchement traversé des véloroutes pendant des jours et des jours. Le canal de Bourgogne, je le connais par cœur. Après, en Suisse, j'ai longé
la piste cyclable, quoi.
Ouais, la piste cyclable. Après, je préfère ça à l'autoroute.
Ah oui,
Mais honnêtement...
À courir sur autoroute, c'est un concept, ouais, c'est sûr.
C'est un défi.
Ah ouais. Ah ouais. Non, non. Mais honnêtement, je défie quelqu'un de le faire en vélo parce que je pense qu'en vélo, c'est hyper facile. Parce que si on passe par le col de Saint-Plon, bon, pas par les chemins que j'ai utilisés, mais par la route, il n'y a pas beaucoup. Enfin, ça se fait très rapidement. Donc, les paysages sublimes. Quand je suis arrivée en Italie, on est passé par le lac majeur, Mergozo, enfin, les paysages juste sublimes, la nature, le beau temps, pas beaucoup de personnes. Et les fois où j'ai eu le plus peur, bizarrement, c'est autour des grandes villes, autour de Dijon, là où il y a des gens. Et en fait, dans la montagne, dans la campagne, il n'y a pas beaucoup de personnes et les gens sont très sympas.
Ouais.
Donc, bizarrement, je ne me suis jamais sentie trop en danger.
Comment on organisait le suivi autour de toi alors? C'était un point A, un point B, comment tu faisais alors?
Je partageais ma localisation en direct avec mes copines. Mes copines, elles faisaient jamais plus de 40-50 km en voiture, donc elles étaient toujours dans un rayon pas très loin. Donc elles avaient toujours ma localisation en direct.
D'accord.
Ça, c'est sûr.
Ok. Et est-ce que tu as été accompagnée en courant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont couru avec toi?
Ouais. Alors à Dijon, j'ai une fille très forte, Manon Coste, qui est une runneuse, qui m'a accompagnée. Elle habite là-bas, elle m'avait envoyé un message. On a couru 15-20 bornes le long du canal de Bourgogne, son canal de Bourgogne, si je puis dire.
Ok.
Donc très très sympa, surtout que je la suis depuis longtemps, elle est assez inspirante. J'ai eu Albin Pellegrin, qui est un de mes très très bons copains.
Ah, c'est un de nos potes aussi, qu'on avait eu pour le marathon pour tous, souviens-toi, Yodu.
C'est ça.
Ouais. Et là, il m'a fait la surprise, il est venu courir deux jours à des moments compliqués. J'ai passé la frontière France-Suisse avec lui.
D'accord.
Donc, on a découvert le lac Léman ensemble.
Okay.
Il m'a apporté, ça faisait du coup deux semaines que je courais, il m'a apporté la joie, la folie que j'avais besoin à ce moment-là. Il m'a rechargé en énergie. Et en fait, j'ai décidé de ne pas faire de jour off parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui a fait Paris-Marseille en courant, qui m'a dit qu'il faisait tous les dimanches un jour off et qu'en fait, l'esprit, le corps était en off, mais l'esprit, en fait, perdait du temps dans sa tête.
Ça, c'est intéressant.
Et donc, du coup, il m'a dit, je te conseille plus de faire des jours off en courant 20 km. Comme ça, tu cours beaucoup moins.
Tu cours un peu, mais tu cours quand même.
Voilà,
tu régénères un peu.
Exactement.
Mais...
Ouais.
Et ta tête, du coup, elle n'a pas l'impression de perdre du temps. Donc, en fait, je n'ai jamais fait de jours off. Et parfois, j'ai fait des journées de 20 km. mais je compensais avec des journées de 50. Mais donc, du coup, mes jours off, c'était quand j'avais des gens qui couraient avec moi. Donc, j'ai eu Albin deux jours. C'était mes jours off. Il courait pour moi, limite. J'avais l'impression de ne pas courir. Et après, j'ai eu mon copain qui m'a rejoint les 5 derniers jours. C'était une surprise. Je pensais qu'il allait faire juste la dernière étape.
D'accord.
Et il m'a accompagné, du coup, juste après la frontière entre la Suisse et l'Italie, dans un village qui s'appelle Varzo, okay. en Italie. Ouais. Et là, j'ai fait toute l'Italie avec lui et c'était juste sublime. Et à ce moment-là, j'ai eu une toute petite douleur à la cuisse
quand même.
Qui est arrivée.
Okay.
Et en fait, elle a duré 2 jours. Et après, ça s'est fini. Mais donc, du coup, c'était vraiment bien d'être accompagné. Surtout que le lac Majeur, c'était très beau, mais on est resté sur la route. Donc, on était sur la voie des voitures qui avancent face à nous.
Okay.
Apparemment, c'est moins dangereux.
Ouais.
Mais donc, du coup, constamment, l'attention.
Ouais, et... c'est ça. Et ça, c'est intéressant que tu dises ça, Joséphine. Et c'est peut-être ça, Yodu, qui est dur dans ce type de défi. C'est la concentration extrême, parce que tu découvres un environnement que tu connais pas, t'es pas sur une route fermée, t'es pas dans des coins que tu connais, donc t'es aussi attentif à la trace que tu suis. Johan, c'est mentalement que c'est dur aussi ce type de défi. Hein.
Ouais, c'est moi mentalement, tout à l'heure je parlais de la lassitude, mais c'est vrai que la durée du défi c'est quand même relativement long et tu connais pas les chemins, c'est ça, c'est tu vois le dénivelé marqué sur une carte, tu vois à peu près que ça monte ou que ça descend, mais c'est vrai que tu le découvres un peu quand t'arrives et effectivement c'est magnifique de découvrir des nouveaux trucs, mais c'est aussi un peu usant, tu vois, mentalement, de se dire, enfin, de pas connaître, tu vois. Moi je sais que par exemple quand je cours un marathon, j'ai une petite appréhension quand je connais pas le parcours, tu vois. C'est un marathon que j'ai jamais fait et que j'ai pas repéré.
Ouais.
Même si on me dit, tu verras, il y a un faux plat montant à tel kilomètre, bah, si je l'ai pas vu de mes propres yeux, ça me stresse un petit
t'as
peu.
T'as envie donc, de le connaître avant, quoi, c'est ça.
Ouais, t'aimes bien reconnaître avant. Mmh. Et là, pour le coup, bah, le mental, tu découvres tout. Donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué, ouais.
Est-ce que l'allure, parce que ça c'est intéressant aussi, t'enchaînes 26 jours de course sans t'arrêter, tu fais des journées entre 20 et t'es monté à 60 km au début sur les premières journées, est-ce que le corps finalement se met un peu en mode automatique et tu te retrouves sur une allure qui est toujours la même jour après jour ?
Non, parce que j'avais beaucoup de personnes au téléphone, parfois j'avais de la musique, donc en fonction, parfois dans ma tête, donc j'allais vite, j'allais moins vite.
Tu pouvais faire une heure rapidement, une heure un peu moins vite.
Ouais. Comment
tu t'alimentais ? Est-ce que tu prenais des vrais repas ? Est-ce que tu courais parfois en digestion aussi ? Parce que c'est...
Je courais souvent en digestion.
Ça, c'est pas facile. Hein.
Ça n'a pas été facile parce que il fallait que je parte tôt. Le plus tôt auquel je suis partie, c'est 10h. Je partais entre 10h et 11h.
Ah oui, donc tu prenais le temps de dormir le matin.
J'arrivais pas. Bah, en fait, je me réveillais à 7h, il fallait que je fasse les sous-titres de mes vidéos. En fait, je faisais mes vidéos en deux temps.
Oui, d'accord.
Donc en fait, je me levais tôt.
On peut pas être Instagrammeur, Yudu. Nous, on n'a pas ce courage et cette patience. C'est ça notre problème.
3 heures de sous-titres.
Donc, je me levais tôt, mais je partais pas tôt. Et donc, en fait, je prenais un bon petit déj le matin.
Ouais.
Et quand j'arrivais à 16-17h, mes copines, elles me préparaient un repas et je remangeais à 20h. Mais tout le long de ma course, parfois, je mangeais pas. Quand je croisais des boulangeries ou des choses, je mangeais des sandwichs, je mangeais tout ce qui me faisait envie.
Ouais,
j'avais vraiment pas accompagné nutritivement, mais je me suis dit, faut que mon cerveau il ait du plaisir.
Pas de gel, pas d'aliments spécifiques à l'effort, pas du tout.
Morten, ils m'en ont envoyé plein et que je remercie parce que moi sur marathon, je prends quasiment que du Morten.
Ouais.
Et j'ai pris beaucoup. Moi sur marathon semi, même la Saint-Élion, j'ai pris que du liquide. J'arrive pas à mâcher parce que j'ai pas de salive.
Okay.
Et là en fait, à l'opposé, j'ai pris zéro gel.
Okay.
J'avais envie de mâcher, j'avais envie de choses.
Ouais.
Donc j'ai pris les barres Morten, j'ai pris des sandwichs, j'ai pris plein d'autres choses. Et
d'accord.
Je prenais un peu à mon envie, j'essayais, mais c'est vrai que là, pour la Saint-Élion, par exemple, je me suis dit, il faut que je mange 60 grammes de glucides par heure.
Mm.
Là, je marchais un peu à l'envie.
D'accord.
Après, je me connais bien, donc du coup, j'attendais pas d'avoir faim pour manger.
Mm. L'hydratation est importante. Pareil, comment tu courais quoi ? Avec un camelback ? Tu avais toujours de l'eau sur toi ?
J'avais mon sac d'hydratation. J'avais un litre, deux ou trois gourdes d'eau.
Ouais.
Parfois, c'était compliqué quand mes copines ne pouvaient pas venir me ravitailler, que j'avais pas d'eau. Donc parfois, j'ai manqué d'eau. Je sais que l'effort que j'aurais pu faire, c'est sur la nutrition.
Ouais.
J'ai fait ce que je savais faire et je ne l'ai pas hyper bien fait, mais ça va. Mais voilà. Je buvais, mais parfois, il n'y avait pas d'habitation, pas de refill, donc parfois, je manquais un peu d'eau.
D'accord, mais tu as écouté tes envies
voilà.
Et tu as fait en fonction de ce que tu pouvais voir.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es perdu aussi ? Parce que quand on suit une trace, ce n'est pas toujours évident sur une montre. Parfois, on se dit, y a deux chemins, est-ce que c'est celui de droite ou celui de gauche ? Ça nous est tous arrivé. Finalement, on se trompe, donc on fait demi-tour et on reprend le bon chemin. Ça t'est arrivé énormément de fois, ça ?
Ça m'est arrivé, surtout que Garmin m'a envoyé une super montre. C'était mes sponsors, et donc j'ai une nouvelle montre que j'ai eue le jour J.
Ah ouais.
Donc du coup,
pas eu le temps de tester. Ouais.
Exactement. Donc
t'as laissé le plastique sur l'écran, quoi. Presque.
Non, mais le premier jour, j'ai gardé mon ancienne montre parce que je voulais pas perdre la trace. Et heureusement, parce que ma Garmin, je savais pas trop l'utiliser. Donc du coup, au bout de la moitié du parcours, elle s'est effacée. Donc heureusement que j'avais l'autre. Par contre, ils m'ont dit, excuse-nous, hein, mais on te donne de l'argent, tu vas nous enlever tout de suite la deuxième montre que
t'as. Bien sûr, c'est notre marque en plus.
Ouais, c'est une autre marque, donc d'accord. Je comprends très bien. Mais donc du coup, cette super montre, elle m'a permis vraiment de suivre des itinéraires. C'est assez explicite, ouais. Assez simple d'utilisation.
À droite, à gauche.
Mais parfois, j'avais mon portable aussi, je courais, vu que je me filmais, j'avais aussi Strava, donc j'avais mes étapes sur Strava. Donc parfois, je pouvais encore plus zoomer sur Strava.
T'as eu du réseau partout ?
Ouais, j'ai eu du réseau partout, à part dans les Alpes. Mais oui, parfois, je me suis trompée. Et quand on se rend compte qu'on a fait 3 km, ça semble rien. Mais en fait, aller-retour, ça fait 6. Ouais, ouais. Et sur une journée de 30, 40, 50 bornes,
Et puis quand la fatigue s'est accumulée, la moindre perturbation, c'est un vrai problème, une montagne que tu as affrontée.
Voilà, franchement, ça c'était pénible, mais encore une fois, j'ai jamais eu un moment de doute, un moment d'énervement. Moi, je sais, j'ai écouté pas mal de podcasts d'ultra trailer et je sais que le mental, quand on voit un UTMB de Mathieu Blanchard et quand on regarde un peu tout ça, on voit que le mental, quand il rentre dans une phase où le mental n'est plus là, où ils pensent qu'ils ont foiré leur temps, on voit que tout dégringole. Donc moi, je me suis interdit de penser négativement. J'ai toujours, c'est comme je parle beaucoup de la Saint-Élion parce que la Saint-Élion, c'est un de mes premiers trails.
C'est une épreuve en plus.
Et c'est une épreuve, je suis arrivée 13e féminine, je l'ai bien faite et en fait... tout le temps, pendant ces étapes, pendant ces épreuves, je me suis dit, je vais la manger, cette course. Je vais le faire. Et en fait, pendant ces 26 jours, je me suis dit, Milan, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, j'y vais, je vais y aller. Je le fais pour moi, même si je suis suivie par des personnes et de plus en plus. Je m'en moque, je le fais pour moi, c'est pour moi. Et en fait, de rester dans un mood hyper positif, mes copines, elles sont hyper positives. Tout mon entourage était hyper positif, les messages étaient hyper positifs. Oui, je me trompe de chemin, je ralentis, je marche 2 minutes et je reprends... Rien n'était grave tant que les filles n'avaient pas d'accident de voiture et tant que je me pétais pas un genou.
C'est ça.
Franchement, on relativise.
Ouais. L'importance, Johan, du discours interne, hein. C'est vrai de se forcer à avoir systématiquement des pensées positives pour rester concentré, focus sur l'objectif.
Ouais, c'est ça. Et puis, il faut accepter d'avoir des jours où tu vas bien et des jours où ça va mal. Tu vois, c'est un peu comme à l'entraînement. Il y a des fois, il y a des entraînements qui ne passent pas. Là, il y a des jours certainement qui étaient plus durs que d'autres. Donc, il faut compter sur les copines pour se remotiver, les réseaux sociaux pour aller chercher 2-3 bricoles pour te rebooster. Mais ouais, dans ces défis-là, il faut accepter la variabilité d'humeur un peu. Il y a des moments où tu as l'impression que tout va bien, il y a les oiseaux qui chantent, il fait beau et d'un seul coup, tu as une montée avec de la pluie, t'en peux plus, t'as les jambes qui pèsent, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? Donc effectivement, ça c'est un travail mental et le dialogue interne, il est super important et je pense que c'est un truc... quand on se lance ce genre de défi, il faut être prêt, il faut se connaître, il faut être prêt mentalement à subir tout ça. Ouais.
C'est quoi le moment le plus dur de la journée quand les jours s'enchaînent comme ça ? C'est le début de journée, se mettre dedans et se relancer physiquement et mentalement ? Ou c'est plutôt les fins de journée, les derniers kilomètres, l'arrivée qui est un peu interminable ? C'est quoi le moment le plus délicat ?
C'est l'arrivée.
C'est l'arrivée.
Les 10 derniers kilomètres, que je fasse 60, à chaque 30, fois. 40, les 10 derniers, je vois la journée qui se termine et je sais en fait... Désolée de parler ça, mais je sais que j'ai mon réel, 4 heures de réel à faire. Plus j'arrive tard, plus je commence tard, moins je peux rigoler avec les filles. Vraiment, c'était une charge mentale, ce réel. Mais ça va me permettre plein de choses, donc je le regrette pas. Mais voilà, la création de contenu, c'est quand même du travail et c'est vraiment quelque chose. Donc, c'était les 10 derniers kilomètres où c'était le plus dur. Mais mes copains, je suis super bien entourée, ils m'avaient fait un podcast personnalisé. Et tous les jours, j'avais un podcast d'un de mes copains qui me parlait, qui me racontait quelque chose. Donc, j'avais
sympa. Le podcast personnalisé, j'adore.
Et j'avais aussi des bonbons, des choses. Enfin, j'avais dans mon sac des petits moyens, des petits help. Ça allait mal, et hop, j'écoutais un podcast. Je mangeais un Ferrero Rocher et je repartais, quoi.
OK. L'émotion de l'arrivée, parce que tu l'as dit, tu arrives en Italie, ton copain te rejoint, vous terminez l'étape ensemble. C'est bien raconté. D'ailleurs, je l'ai vu, les dernières étapes, les 38 kilomètres. Hein, ça paraît énorme, mais pour toi, vu tout ce que tu as encaissé, c'est assez facile. On te voit t'arrêter manger une glace, après tu repars. Raconte-nous l'émotion, l'arrivée à Milan, au Duomo, je crois.
Au Duomo, exactement.
Voilà, la place mythique de Milan. Ton émotion à ce moment-là, c'était comment ?
On a terminé par 45 kilomètres.
45.
La dernière journée, j'ai eu mal jusqu'à l'avant-dernière journée à la cuisse. Et en fait, la dernière journée, j'ai plus du tout du
mal.
Tout
mal au quadri. Hein,
j'ai eu mal en haut du quadri. Je ne sais pas ce que j'ai eu et j'ai plus du tout mal.
D'accord.
Mais ça fait une pointe hyper... Et je ne suis pas sensible à la douleur, mais alors là... en marchant et tout, j'avais mal. J'avais mal. Et le dernier jour, Mais j'étais hyper émue et j'avais pas du tout envie d'arriver. Et en fait, pendant toutes les 26 jours, je ne voulais pas arriver parce qu'il ne faut pas oublier que j'y vais pour bosser.
Bah oui, bien sûr.
Et j'adore mon travail et je remercie mon travail, mais je sais que j'allais être devant un ordinateur à faire des choses incroyables. Hein. Je suis super contente, mais là, j'étais dans la montagne, dans les paysages, dans l'Italie profonde. Et j'arrivais, j'ai eu les larmes qui sont arrivées. Et je me suis dit, je l'ai fait. Et je suis arrivée, j'avais communiqué un peu une heure d'arrivée. Donc, j'ai eu une cinquantaine de personnes en fait, qui me suivaient de l'Italie.
Ouais.
Mes copines, elles m'avaient fait des pancartes. Elles avaient pris un drapeau italien. J'avais une photographe qui était venue pour les 5 derniers kilomètres. Donc, j'ai eu des photos. Ça a été hyper émouvant. Mais finalement, en fait, vu que j'étais face à 50 personnes que je ne connaissais pas, je suis arrivée, mais... J'ai tout de suite voulu leur parler, ils voulaient me parler. Donc
ouais,
en fait, j'ai pas.
L'interaction, t'étais voilà. Pas dans l'émotion, j'étais... t'étais déjà dans autre chose.
Ouais, lui, mon copain, a été beaucoup plus dans l'émotion et il était hyper fier. Et lui, je crois qu'il a un petit peu versé 2-3 larmes.
Ouais.
Mais moi, en fait, j'ai pas eu le temps en fait, de réaliser.
D'accord.
Surtout que bah, moi, mon travail, il a repris. Donc après, j'ai dû aller chercher.
Ça a démarré aujourd'hui.
Moi, j'ai commencé aujourd'hui parce que hier, c'était férié en Italie.
Voilà, c'est ça.
Donc j'ai commencé aujourd'hui. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de le réaliser. Là, de vous l'expliquer, ça me permet de le réaliser un petit peu.
Ouais, d'accord.
Mais j'ai pas eu le temps et j'ai vraiment envie de l'intégrer. Et voilà.
Il faut le digérer, un truc pareil quand même. Est-ce que tu, là, parce que ça fait une semaine, est-ce que tu commences, tu repenses, tu te dis, est-ce que tu te replonges dans les réels que tu as fait? Est-ce que ça te remémore plein de choses?
Ouais, ça me remémore des choses et on m'a prévenu que ça allait être un peu compliqué juin parce que la chute d'endorphine, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense que là, il faudrait que je sois accompagnée, pas d'un préparateur mental parce que là, j'ai plus à me préparer, mais je pense que c'est important d'en parler, la santé mentale. Et voilà, j'appréhende ce mois de juin. Pour l'instant, tout va bien.
Ouais.
Mais c'est sûr, il y a une effervescence et le projet a vraiment fonctionné sur les réseaux. Ça a piqué.
Tu peux nous donner des chiffres d'ailleurs, je ne sais pas le nombre de followers qui a augmenté sur toute cette durée du défi.
Je suis partie à 40 000 abonnés.
Ouais.
À Londres, au marathon de Londres, j'étais à 40 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 135
000.
Ah oui.
Et sur TikTok, je suis partie à 15 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 163 000.
D'accord.
Donc j'ai pris énormément de followers
ouais.
et c'est sûr que ça va retomber et je fais pas ça pour les followers même si je suis très contente d'avoir une très belle communauté mais je sais que le mois de juin ça va il va avoir un peu le spleen donc j'appréhende un petit peu mais ça n'enlèvera jamais le Paris Milan que j'ai fait. J'ai pas encore eu le temps. Hier j'ai fait Milan Paris donc je suis arrivée hier à Paris.
Okay.
Là il faut que je déménage mon appartement, il faut que je trouve un appartement à Milan donc j'ai un peu encore le temps.
D'accord.
Mais tout va très vite.
Ah ouais.
Est-ce que ça te manque?
Ça me manque.
Ah, déjà ?
Ah, ça manque. Mais si franchement, ça me manque. Et pour les mordus de course à pied, on fait un marathon. Quand on nous impose 2 semaines d'arrêt, on se gratte les veines au bout de la 2e semaine.
Quand on arrive, on ne dit plus jamais.
Voilà.
Au bout de 2 jours, on est déjà sur le calendrier des courses. Et on se dit laquelle je vais faire, quel dossard je vais accrocher.
Et les bons sportifs, c'est ceux qui respectent les semaines de repos et les laissent.
Et c'est ce que j'allais te dire, Joséphine. Johan, le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est de prendre le temps de digérer tout ça avant de se lancer dans un nouveau défi d'envergure. Hein.
Oui, complètement, ouais. C'est ça. Bah, de savourer, de prendre le temps de se reposer et de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, par rapport à ce défi, par rapport à tous ces moments vécus et de le savourer, ouais. De pas passer directement à autre chose et de tourner la page directement. Je pense que ça serait une erreur, ouais.
Est-ce que, parce que c'est aussi ça le, entre guillemets, le bémol des réseaux sociaux, le mauvais côté, c'est qu'après, c'est toujours un engrenage, c'est la course au plus grand défi. Est-ce que tu te sens, entre guillemets, obligé de réfléchir à d'autres défis, à faire d'autres choses pour inspirer, parce que tu dois aussi créer du contenu, ou est-ce que non, tu t'imposes rien, tu ne te mets aucune pression et tu verras bien ce qui va se passer?
J'ai envie de rien m'imposer. Après, ça serait mentir de dire que je réfléchis pas à de nouveaux projets. Et c'est ce que mes parents me disent en premier. Quand j'ai fait un marathon et là que j'ai dit je vais en faire un deuxième, je vais faire celui de Paris, Londres, ils me disent mais tu vas t'arrêter où? C'est quoi cette course à toujours plus grand? Et donc, c'est pour ça que vous avez raison et que je vais prendre le temps de le digérer. Et si demain je fais un projet, c'est pour moi et je vais me dire que si mon compte il saute, je ferai quand même ce projet.
Ouais,
en fait, et c'est comme le Paris-Milan. Le Paris-Milan, je l'ai fait pour moi absolument. Je savais pas que ça allait fonctionner. Et donc là, vous avez raison. Et si je fais un projet, je ferai un projet réfléchi, un projet pour moi d'abord et après pour le partager si j'ai envie.
Ouais, d'accord.
Peut-être pas un réel par jour.
Mais t'as déjà des idées dans la tête.
Moi, ce que j'adorerais, c'est d'aller bosser à LA 2028 après et de faire Milan LA et de traverser l'Atlantique en bateau, de faire Milan Portugal en vélo, de traverser l'Atlantique en bateau.
En fait, il écrit ton projet déjà.
Ouais,
voilà.
mais c'est un projet sur beaucoup plus longtemps.
Ouais.
C'est beaucoup plus longtemps, mais bien sûr, ça me ferait rêver de faire quelque chose comme ça, d'être accompagné, peut-être plus accompagné, de monter une équipe là-dessus. Je trouve que l'histoire est folle. Et en fait, j'aime le sport en général. Bien sûr, j'aime le running, le trail, mais le sport en général. Je trouve que tous les athlètes doivent être mis sur le devant de la scène. Et
il faut trouver le bon compromis entre l'effort sportif, l'investissement sur les réseaux et une façon d'optimiser tout ça. Mais avec l'expérience que tu as acquis là, ça va forcément évoluer différemment. Tu auras plein de réponses aux questions que tu te posais.
Mais cette année, j'avais deux challenges. C'était un de faire un trail de plus de 100 km. Bon, avec le Paris-Milan, il est peut-être, on peut peut-être dire que c'est fait. Et de passer sous la barre des 3 heures au marathon. Donc cette année, je fais Valence. J'ai fait 1h21 au semi à Paris. Je me dis que si je me réentraîne et cette fois, je suivrai un plan d'entraînement.
Oh, c'est jouable.
Donc à Valence, c'est mon prochain challenge, c'est peut-être de passer sous cette fameuse barre pour la cocher.
Surveille ton volume quand même. Parce qu'il ne va pas t'envoyer 200 bornes par semaine. À un moment, ça va, avec de l'intensité, ça peut peser au bout d'un moment.
Cette fois-ci, non.
Joséphine, merci d'être venue dans RMC Running. C'était passionnant de t'écouter. Défi inspirant. Bravo encore une fois à toi. Un bel exemple. Ça, c'est les réseaux sociaux qu'on aime. Tu vois, parfois, on a un peu de mal avec tout ce qu'il y a raconté, etc. Mais l'idée, c'est d'inspirer les gens. Nous, on pousse les gens comme ça à raconter des histoires. On suit Dorian Louvet dans son défi fou. Et toi aussi, là-dedans. On a reçu Duncan Perrier la semaine dernière, qui est en plein défi de Tour de France avec plus de 100 km par jour. Mais c'est bien aussi de se lancer de grands défis. Donc bravo, Joséphine. Tu reviens quand tu veux dans RMC Running. Et continue d'avoir cette bonne humeur, c'est ça le plus important. D'ailleurs, tu vas entendre la devise d'RMC Running, ça va te parler. Merci Yodu d'avoir été là aussi.
Merci
quand
à tous.
Quand tu veux, on se lance un défi d'envergure comme ça. Hein. On peut faire quoi ?
Allez, à force d'en parler, il va falloir
Paris-Bergerac. On devrait se faire Paris-Bergerac. Genre, on se rejoint l'un l'autre, tu vois.
Voilà, à Châteauroux, ça va faire rêver ça.
Pourquoi pas, t'imagines ? Merci Yodu, merci Joséphine. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.